Vous êtes à Boulevard 102.1. Et si je me fie aux nombreuses réactions depuis le début de la journée, ben vous êtes là plus que jamais quand l'actualité prend toute la place. Puis c'est tant mieux, c'est l'objectif. 418-971-1021 pour nous rejoindre par texto, le 418-780-1021 pour nous rejoindre par téléphone. Oui, François Legault est parti, mais Véro, la vie continue à l'Assemblée nationale.
Oui, puis il y avait un conseil des ministres qui avait lieu sur l'heure du midi. On se demandait à un moment donné, avec ses démissions, est-ce qu'ils vont le repousser? C'est un conseil des ministres virtuel. Puis il y a une décision qui a été prise et annoncée. On s'est parlé pas plus tard qu'hier de la SAAC, la Société de l'assurance automobile du Québec, qui avait maintenant un chaperon en l'autorité des marchés publics à cause de différentes irrégularités, non-respect de certains éléments. Puis on a fait la liste ensemble. Il y avait 12 points qui était sorti. On nomme un quatrième PDG en 3 ans à la barre de la Société de l'assurance automobile du Québec. On avait...
Ça, c'est signe que ça va bien, là.
On avait mis à la porte Denis Marcellet en 2023. On avait mis à la porte Éric Ducharme l'année passée. C'était Annie Lafond qui était une des vice-présidentes de la SAAC qui avait été placée là par intérim. Une fille, entre autres, de marketing et de service à la clientèle, souvenez-vous.
Et, combien de coachs avaient eu les Nordiques le pire année?
Hey, je ne sais pas.
C'est, dans ma tête, mon souvenir, c'est 5. Là. Il y a peut-être des vieux de la vieille qui s'en souviennent, 418-971-1021. Quand tu changes de coach 5 fois en une année, là, c'est que ça va vraiment pas bien. C'est mon parallèle sportif du jour.
Là, on est allé chercher un homme qui était à la retraite depuis 2024. Selon le texte de Tommy Chouinard de La Presse, dans les coulisses, on parle de lui comme étant un monsieur net. Il s'appelle Serge Lamontagne. Il va entrer en poste le 19 janvier prochain, donc dans quelques jours à peine. Lui, c'est un gars qui a été dans la fonction publique pendant 35 ans, puis c'est un gars qui s'est spécialisé dans la réorganisation en particulier. Lui avait été nommé pas longtemps après que Laval ait été mis sous tutelle. Souvenez-vous, le règne de Gilles Vaillancourt, ce que ça avait donné, la commission Charbonneau, il avait d'ailleurs témoigné à ce moment-là. Donc, il était devenu directeur général de la ville de Laval en 2014. En 2018, il a eu les mêmes fonctions, mais du côté de la ville de Montréal, avec l'arrivée de la mairesse Valérie Plante, avait donc pris sa retraite. Et là, il devra mettre en œuvre les recommandations de l'Autorité des marchés public. C'est l'avenir aussi de la commission Galant qui vont être déposées incessamment. Il va devoir présenter un plan de retour à l'équilibre budgétaire, devra s'assurer de la qualité des services à la population. On estime que la nomination d'un candidat de l'externe va permettre d'avoir un regard neuf sur la gestion de la SAAC. Ça, c'est ce qui se dit encore une fois à l'interne au gouvernement. Fait qu'un nouveau PDG pour la SAAC, décision qui a été prise plus tôt aujourd'hui en Conseil des ministres.
Délaissons un peu les histoires de François Legault parce qu'on y reviendra bien assez vite dans les prochaines minutes. D'ailleurs, on va se faire un pit stop d'après-midi. Donc, le pit stop en mode inversé. Pourquoi? Bien, simplement parce qu'on a manqué la nouvelle ce matin. Là. Je veux dire, on était complètement dans le champ gauche. Non, sérieusement, on a parlé du sondage. Puis c'est peut-être la seule fois où un lendemain de sondage désastreux pour la CAQ, on n'a pas évoqué la démission de François Legault. Peut-être qu'on pensait que le deadline était dépassé ou que François Legault avait tout simplement... l'entêtement de rester. J'y ai même pas pensé ce matin à évoquer la possible démission de François Legault. Fait qu'on va parler au chum Marceau dans les prochaines minutes. Mais il y a deux événements historiques que je trouve important de souligner aujourd'hui. Le premier, c'est il y a 10 ans, et je ne sais pas si vous en souvenez, qu'est-ce qui est arrivé le 14 janvier 2016? C'est le décès de René Angélil.
Je l'avais oublié, ça.
René Angélil qui décédait du côté de Vegas des suites d'un cancer de la gorge qui l'avait beaucoup, beaucoup amoché avant son décès. C'était 2 jours avant son 74e anniversaire de naissance.
Il n'était pas si vieux, hein?
Non.
Je pense que le look faisait qu'on avait tellement l'impression que René Angélil était pas mal plus vieux que ça.
J'avais l'impression qu'il était beaucoup plus vieux que ça, alors que quand tu regardes les vieilles images de son groupe, les Baronets, en noir et blanc, tu sais, c'était à nous autres. Tu sais quoi, les Baronets? Baronnet, Audrey?
Bien, de nom, là, vite de même, mais je te mentirais de te dire que je peux te faire un exposé oral. Là.
Les Baronnets, plus souvent qu'autrement, reprenaient des chansons des Beatles, mais en version française. Et T'avais-tu déjà vu René Angélil à cette époque-là, pas de barbe, avec ses gros cheveux noirs foncés?
Non. Toi aussi, tu pensais qu'il était né avec les cheveux blancs et une petite couette de cheval?
Oui, oui, ça venait avec, on dirait. Le best, c'est que j'ai déjà entendu ça.
Ça a été le gros hit, ça. C'est fou, mais c'est tout. C'est en 1994 que René Angélil avait marié Céline Dion, un mariage hyper médiatisé à Montréal.
Le chameau pis tout. Oh ah, mon Dieu, oui.
C'était de ridicule. Le 17 décembre 1994, t'avais l'impression que c'était Cléopâtre qui se mariait.
Ça avait-tu été diffusé en direct?
Je pense que oui. En tout cas,
c'est
ils ont
vague
vendu,
dans ma tête.
Ils ont probablement vendu le tape après, là, de ce que je me souviens. Là. Il a d'abord été, oui, l'impresario de Céline Dion. Il a été le gérant de Ginette Renault, de Garou, et c'est à la Basilique Notre-Dame qu'on avait célébré ses funérailles, donc ça fait 10 ans. Combien d'enfants ont René et Céline
3,
ensemble?
C'est pas 3, oui.
C'est une bonne réponse. Oui. René Charles, Nelson et Eddie.
Les deux qui sont des jumeaux, les derniers.
Ouais, ouais, ouais.
René Charles, on dirait d'ailleurs que c'est le fils de Garou, là.
Il y en a qui le sous-entendent fortement. Oui,
mais dans la vraie vie, quand tu le regardes...
Au-delà de dire il y a de l'air, il y en a qui pensent que c'est vrai. Là.
Regardez, pour vrai, il ressemble au défunt père de Céline. Mm. Il a le même look. Là.
Ça, c'est les deux, rumeurs qui m'amusent le plus sur la paternité. Celle-là où Garou est le père d'un des enfants de Céline Dion.
Puis le père de Justin Trudeau.
Ouais, Fidel Castro est le vrai père de Justin Trudeau. Ça m'a tout le temps fait bien rire. L'autre anniversaire, puis là, on rentre un petit peu plus dans l'histoire de Québec, mais je trouve ça intéressant. Il y a 100 ans, jour pour jour, c'était l'incendie du château Frontenac.
Les images de cet événement-là sont spectaculaires. Je pense que c'est la page Facebook de la ville qui les a partagées un petit peu plus tôt aujourd'hui.
Je savais pas qu'on avait ces images-là. Je les avais jamais vues.
En plein mois de janvier, puis tu vois à quel point la structure est encore là, mais il reste plus rien derrière, puis tu as toute l'eau qui a figé sur la devanture du château Frontenac. On dirait une image qui est digne d'une espèce de film médiéval où il s'est passé quelque chose d'hyper dramatique.
Le 14 janvier 1926, un incendie éclate dans la vieille section de l'hôtel. Les pompiers combattent le feu toute la nuit, réussissent à sauver le château. Des milliers de curieux qui assistent impuissants au sinistre. Aucun décès, mais des dommages matériels d'une ampleur colossale pour l'époque. Construit en 1892, inauguré en 1893, c'était quoi le château Frontenac au départ, le savez-vous?
Ça n'a pas toujours été un hôtel, ça a été une résidence.
Ça a toujours été un hôtel, mais c'était un hôtel qui avait un objectif et une vocation particulière.
Vas-y.
Le château Frontenac était le deuxième d'une longue série d'hôtels de style château qui étaient construits par les compagnies ferroviaires.
Ah ouais.
Puis l'idée, c'était de faire prendre les touristes par le train puis de dire, vous faites la tournée des grands hôtels somptueux.
Donc, ben, hot,
c'était de créer, dans le fond, le Titanic avant le Titanic, mais avec
c'est l'Orient Express, mais version au Québec.
En plein ça, version canadienne, okay, parce que c'était vraiment les compagnies de chemin de fer. Là, on traverse le Canada au grand complet. Ça prend des hôtels luxueux pour héberger les touristes qui ont l'argent pour faire la traversée du Canada ou la traversée du continent. Donc, c'est vraiment les compagnies ferroviaires à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Le but était de populariser les voyages en train. Et la Ville de Québec, en 1890, engage un architecte pour construire le château Frontenac, Eugène-Étienne Taché, à qui l'on doit, entre autres, un autre building historique de la Ville de Québec.
C'est l'édifice Price.
C'est l'Assemblée nationale, qui présente son projet qui s'appelait à l'époque le Fortress Hotel, un édifice comprenant un hôtel de luxe, un grand opéra et trois tours rondes qui rappellent les châteaux français. Peut-être vous dire qu'avant le château Frontenac, maintenant on le sait parce qu'il y a des sites archéologiques qui sont disponibles sous la terrasse d'Offren, c'était le Fort Saint-Louis qui est devenu le château Saint-Louis. Ça a été bâti en 1620 par Samuel de Champlain lui-même. C'est devenu la résidence officielle du gouvernement de la Nouvelle-France en 1646. Le fort Saint-Louis, qui lui aussi a été brûlé, se retrouvait un petit peu plus vers la terrasse d'Offren que le château Frontenac en tant que tel. C'est pour ça que c'est à l'intérieur de la terrasse que vous avez les voûtes qui sont devenues touristiques.
C'est très hot d'ailleurs. Là.
C'est, oui, depuis l'hiver 2010-2011 que Parc Canada a construit la crypte archéologique qui se retrouve en dessous. C'est en 1834 qu'il a été détruit par les flammes, le fort Saint-Louis. Il a été restauré après la conquête anglaise parce que, veux, veux pas, il avait été magané plusieurs fois. Et finalement, c'est plus tard qu'on a construit sur les décombres la terrasse qu'on connaît et plus tard ensuite le château Frontenac. Donc, c'est le 100e anniversaire de l'incendie du château Frontenac. Puis si vous n'avez pas vu les images, ça vaut vraiment le détour sur le Facebook de la Ville de Québec.
Le château Frontenac qui, encore aujourd'hui, est l'hôtel le plus photographié à travers le monde.
Mais c'est magnifique, ça n'a pas de bon sens.
Puis tu sais, de différents points de vue. Tu sais, quand tu es dans le secteur en bas, tu vas le voir avec les remparts, c'est absolument magnifique. Quand tu arrives par la rue Saint-Louis, c'est super beau. Disons que de créer un hôtel en 2026 qui pourrait être autant photographié, il faudrait qu'il soit assez exceptionnel.
Ce serait tough. En fait, ils sont tous à Dubaï.
Oui, ben exactement. Exactement.
Il est 15h30, courte pause, puis on se branche pour un pit stop unique, étant donné qu'on le fait en après-midi. Par contre, c'est un pit stop, il va commencer en retard. Gravel. Gravel. Gravel.